une histoire dans le rétroviseur.
Toulouse, la ville rose, accueille en mars 1936 un congrès syndical très singulier. Dans les travées de la salle de congrès, l'on croise des gens qui, hier, se vouaient une haine féroce, et ce, depuis 20 ans. En effet, il faut remonter à la Première Guerre mondiale pour comprendre cet événement. En 1914, la direction de la CGT, sur la tombe de Jean Jaurès, assassiné par un militant nationaliste, annonce avec force qu'elle rejoint l'Union sacrée, autrement dit, elle fait sienne la défense de la patrie menacée par les Boches. La CGT antimilitariste, pacifiste, internationaliste, anticoloniale, cette CGT-là choisit de s'allier aux bourgeois et réactionnaires au lieu d'appeler la classe ouvrière à la grève générale contre la barbarie. Pour les syndicalistes révolutionnaires, ce n'est pas acceptable. En 1917, la révolution russe est un second sujet d'empoignade. Les révolutionnaires se disent que les temps sont au renversement du monde, tandis que les modérés s'inquiètent de l'autoritarisme bolchevique. Au sein de la CGT, le courant révolutionnaire fait feu de tout bois, devient de plus en plus fort et c'est cela qui pousse la majorité confédérale réformiste à le mettre dehors. Nous sommes à la fin de l'année 1921 et quelques mois plus tard, les radicaux créent une organisation concurrente appelée CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire. C'est la guerre, et une guerre qui durera jusqu'à ce congrès de réunification. Ce qui s'est passé dans le monde syndical a son pendant sur la scène politique, mais avec un décalage d'un an. En 1920, le parti socialiste d'alors a implosé, et la majorité a transformé le parti en parti communiste. PS, PC, CGT, CGTU. La division est à l'honneur et pendant 15 ans, l'insulte sera sur toutes les lèvres. Traître, réformard, complice du patronat, moscoutaire, moscouillon, agent de Staline, agitateur sans cervelle, manipulateur stipendier, etc., etc. Au fil des années, la CGTU devient le bras armé du Parti communiste, ce qui déplaît à beaucoup d'ouvriers attachés à l'indépendance du syndicat par rapport au parti. Des ouvriers qui refusent de se plier aux injonctions du Parti communiste, d'autant plus que des crises régulières déchirent ce parti. Et puis, il y a février 34 et sa célèbre manifestation antifasciste où les cortèges syndicaux se croisent et se fondent. L'heure est à l'unité. Il y a aussi Staline qui, après avoir répété que les réformistes étaient l'ennemi à abattre pour le prolétariat, décide que désormais, il faut favoriser les rapprochements. L'heure est au front populaire et rien ne peut se faire sans l'aval de l'Union soviétique. Bref, en 1936, ce sont les ennemis d'hier qui se voient pour entériner l'unité après plusieurs mois de discussions, tractations, palabres et concessions, essentiellement de la CGTU, largement minoritaire. Au cœur des discussions, il y a inévitablement la question fondamentale de l'indépendance du syndicalisme à l'égard de la politique, conformément à la fameuse charte d'Amiens de 1906. La CGT la défend, tandis que la CGTU aimerait que l'on permette à des dirigeants syndicaux d'exercer des mandats politiques. Autre point d'achoppement, la composition des organes dirigeants. Que doit-on prendre en considération? Le nombre d'adhérents de chacun des syndicats ou le nombre des syndicats existants? Bref, à ce congrès de Toulouse, l'incompatibilité entre mandat syndical et politique est votée. Certains devront choisir entre leur place dans la Confédération réunifiée et celle de membres, par exemple, du comité central du Parti communiste. Pour les organes dirigeants, c'est le nombre de syndicats qui est privilégié, ce qui favorise les réformistes. Une page se tourne pour le mouvement ouvrier français. La CGT réunie redevient, aux yeux des travailleurs, une organisation plus attractive. Et deux mois plus tard, le formidable mouvement social de mai-juin 36 fera exploser les effectifs.
Alternant FM.